Voix Nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Alain Corbin. Ce soir, monde rural et société terrienne.
Bonsoir Alain Corbin.
Bonsoir.
Hier soir, il fut question de vos études supérieures en province, du début de votre carrière en province, à Limoges puis à Tours, et de votre relation distancée à la politique. Vous partez en Algérie en 1960, la guerre ne détermine pas vos travaux futurs, et vous traversez mai 68 sans en être secoué non plus. Dès votre thèse, vous travaillez sur le monde rural et sur la société terrienne. En quoi, Alain Corbin, le bocage normand fut-il pour vous si marquant? Et pourquoi les haies sont-elles fondamentales? Que changent les haies aux mentalités paysannes?
Alors, écoutez, en ce qui concerne le bocage normand, je ne m'étais pas posé la question lorsque j'étudiais le Limousin. Mais c'est avec l'âge qu'on... C'est avec l'âge, et en particulier durant les dernières années, qu'on se pose la question soi-même, que les autres vous posent, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, mes origines très bocagères, très fermées, très enfouies, hein, parce que si vous allez encore aujourd'hui à Domfront, que vous allez sur le château, que vous regardez le bocage qui s'étend à vos pieds, vous verrez que c'est le bocage encore aujourd'hui le plus dense de France, et qui s'est pas trop changé. Alors c'est un milieu un peu enfermé. C'était un milieu de, à l'époque, de mono-activité d'élevage, hein, le lait, la crème, est envoyé pour le camembert et le calva. Bon, point. C'était, je voyais pas grand chose d'autre là, hein, y avait pas de culture. Et c'est une région, donc fermée, et dans laquelle l'indépendance d'esprit est très forte. Ça, c'est pas moi qui l'ai. Le professeur de Gabriel Désert, professeur d'histoire contemporaine de Caen, hein, par la de ma génération, était aussi, disons, pénétré de cette. D'ailleurs, je l'invitais pour les choix à Tours de professeur quand j'étais, parce que je savais que lui, il venait du bocage et qui serait indépendant, qui regarderait les dossiers et ne ferait pas attention aux influences extérieures. Et c'est ça qui est tout à fait caractéristique. Alors d'autre part, c'est vrai qu'il y a une compréhension des paysans quand même. Et forcément, à force de côtoyer, de connaître, c'était connaissait que ça, finalement. Hein. Donc ça prépare quand même à l'histoire des paysans, même s'ils sont d'une autre région. Hein. J'ai souvent écrit sur les paysans du Limousin, alors que j'étais en vacances en Normandie. Hein. Donc, mais ça fait rien, parce que ils étaient un peu différents, les paysans du Limousin, ne serait-ce que dans le domaine de la religion. Ça, c'était très net. Mais il y avait quand même, pour moi, une plus grande facilité. La preuve, c'est que j'ai au départ, dans mon enquête orale, été inquiet à propos des ouvriers, parce que je ne connaissais pas les ouvriers. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup d'historiens qui ont connu les ouvriers et pas connu les paysans. Hein. Et il faut, c'est pas toujours facile de pénétrer un milieu qui vous est totalement... totalement indifférent. Je raconte aussi dans le petit livre que j'ai demandé à ma femme de m'attendre dans la voiture. La première fois que j'avais été chez un vieil ouvrier porcelainier dans le quartier des Ponts, c'est le pire des quartiers de Limoges, qu'il fallait monter un escalier branlant, frapper l'ouvrier qui était en train de se raser avec une bassine avec de la mousse, et moi je venais lui parler du Front Populaire. Il fallait quand même, ça s'était bien passé. Donc, à partir de là, j'ai mieux compris ce qu'on pouvait être le contact avec un ouvrier. Mais c'est pas simple de passer comme de connaître tous les milieux. Vous savez, il y a des gens qui connaissent très, très mal la route. Il y a des spécialistes. Hein, Éric Mention-Rigaud, il connaît très bien la noblesse, etc. Mais c'est la même chose. On ne rentre pas on ne rentre pas directement, facilement, hein, connaître le langage sec, un peu elliptique de la grande aristocratie, par exemple. Ça peut dérouter.
Quelles sont les différences entre le langage d'un paysan et le langage d'un ouvrier, tel que vous les avez sentis dans les années 60?
Les paysans, ça ne me posait pas de problème, quoi. J'aurais eu presque envie de parler un peu de patois. L'ouvrier, c'était quelque chose qui impliquait plus de cohésion de groupe. C'est-à-dire qu'il faisait assez souvent allusion à l'atelier. Sur la ligne, etc. Quand on discutait,
Au travail collectif, à la collectivité.
Oui, sans doute. Alors, les paysans aussi avaient leur lieu, mais se croiser sur la route, mais c'est pas le même langage non plus. Il y a des proverbes, bref. C'est différent, mais bon.
Et vous avez dit, Alain Corbin, qu'un paysan du bocage a une indépendance d'esprit parce que c'est très fermé. Pouvez-vous prendre un exemple de paysan d'une autre région qui serait exactement le contraire, parce qu'il n'y aurait pas de bocage, d'un paysan normand?
Écoutez, là où j'allais chez ma grand-mère, près d'Alençon,
c'était toujours dans l'Orne.
C'est toujours dans l'Orne, alors que, en fait, c'était plus jovial. Le paysan d'Alençon n'était pas jovial. Oui, je parlais de Maupassant, hein,
par rapport à Barbédon.
Les plaisanteries graveleuses, etc., même devant les enfants, c'était plus là, hein. Donc, vous voyez, il y avait des nobles. Il y avait beaucoup de nobles, alors. Il y avait, chez ma grand-mère, il y avait le comte, il y avait le baron, etc. Alors, madame la baronne, la sortie de la messe, c'était pas la même sortie de messe. Très important à cette époque, la sortie de la messe, hein. C'était des paysans qui sortaient. Moi, j'ai été présenté, par exemple, je dirais pas trop le nom, mais madame II, il fallait, Je prends cet exemple-là. Les paysans avaient des maîtres, là. Elles avaient des maîtres, elles n'avaient pas à Longlet-l'Abbaye.
Vous préférez le côté Longlet-l'Abbaye?
C'est plus beau. Enfin, je veux dire, il faut connaître, oui, c'est plus prégnant. Et si vous y allez, vous allez le ressentir.
Vos livres, ceux de vos livres qui se penchent sur le monde rural, c'est Les cloches de la terre, Le village des cannibales, et le plus connu, qui est, je crois, le livre de vous qui s'est le plus vendu, c'est Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, sous-titré Sur les traces d'un inconnu, 1798-1876. Vous le publiez, il est publié en 1998. Pourquoi avez-vous l'idée de faire cette enquête? Vous décidez de choisir un inconnu dans un fonds d'archives de l'Orne, pour ne pas multiplier les difficultés, avez-vous dit, et de choisir, en pointant votre doigt, au hasard,
quelqu'un. D'abord, j'avais pendant une quarantaine d'années fréquenté les archives départementales, et j'avais déjà une bonne connaissance des séries. Vous savez, il faut savoir où on cherche, quand on a la série M, c'est telle chose, quand on a la série V, c'est telle autre chose, etc., etc. Je connaissais ça très bien, j'avais même fait des topos aux Archives nationales, parce que j'avais tellement fréquenté 40 dépôts, je crois, ou 44, que j'avais une connaissance de l'évolution, de l'ambiance, etc. Ça, c'était une chose. Et en 1995, je vais dans le cimetière où j'allais avec ma grand-mère. Ma grand-mère me disait, tu vois, elle me racontait des histoires pratiquement de presque toutes les tombes. Parce qu'elle était née en 62. Bon, j'avais une arrière-grand-tante née en 56 qui faisait la même chose. Et quand j'arrive en 95, je vois des machines qui sont en train de prendre ces tombes dont on m'avait parlé, etc. Il paraît que ça s'appelle une réduction. C'est-à-dire qu'on prend les os, on en prend quelques-uns, on met dans une petite boîte, je sais pas trop ce que c'est.
Hein. Parce qu'il n'y a plus de place dans les
cimetières. Ben voilà, alors, il y avait la moitié du cimetière comme ça, que j'avais bien connu. Ça m'a quand même Ça m'a donné un choc. Et ça m'a donné l'idée de dire, mais je vais sauver, tous ceux dont m'avait parlé la grand-mère sont fichus, si vous voulez, sont disparus. Je vais en sauver Brulorn, je vais en sauver un. Qui n'a plus de tombe, etc. Mais je vais voir. Et donc, j'ai été aux archives départementales, j'ai choisi une commune, pas loin. J'ai choisi un individu qui avait vécu assez longtemps du 19e. Et je me suis dit, je vais le ressusciter dans toute la mesure du possible. Voilà. Et bon, c'est pas facile parce qu'il était... Il était analphabète en plus, il était indigent, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment le bas du bas quoi, de la société, c'était le numéro un, si vous voulez, par le bas, et je me suis dit, je vais essayer quand même de ressusciter ce type. Hein. Alors, par chance, l'État français du 19e aime bien regarder. À la naissance, on voit quels sont les gens qui ont signé au mariage les témoins. Ensuite, il y a le conseil des révisions, il y a les impôts, il y a les listes d'indigents, il y a le service militaire.
Naissance des enfants.
Il y a tout. Alors, moi, le livre est sorti au Japon avant de sortir en France. Et il y a eu une petite réunion, c'est pour dire un colloque, pour comparer Japon et France à ce propos. Et les Japonais ne pourraient pas faire ça. Parce que l'État japonais du 19e siècle, si vous voulez, n'est pas attentif à l'individu comme ça. Hein? Donc c'était la conclusion de cette petite réunion, sauf pour ceux qui avaient été de Kyoto à Edo, c'est-à-dire Tokyo, au moment du Meiji. Là, ils ont été suivis parce que c'était des migrants, on avait un peu peur. Mais l'État français permet. J'ai essayé de ressusciter ce monsieur qui, grâce à toutes ses archives, à cette sollicitude de l'État à l'égard des hommes, parce que ce serait impossible. Hein. J'aurais pris une femme, je pouvais pas.
Il n'y aurait pas eu la date de son mariage.
Si, oui. Mais beaucoup moins. Ben oui, parce qu'en dehors de la naissance, du mariage et de la mort, les femmes, rien. Je laisse ça. Je parle des anonymes. Hein. Je parle pas évidemment de Madame McMahon. Hein. Bon.
Qu'auriez-vous fait si vous étiez tombé sur une femme?
Ah non, mais
vous n'auriez même pas pu tomber.
Non, j'avais décidé de prendre.
Il fallait que ce soit un homme. Alors, comment avez-vous. Vous avez aussi étudié Louis-François Pinagot dans son environnement.
Ah ben oui, parce que. Pour le comprendre, etc., j'avais presque rien sur lui, mais j'avais ses cousines, etc., le villa, le bistrot.
Forêt aussi.
Il était sabotier, ça. Je savais qu'il était sabotier. Je savais qu'il avait une vache. Ça, je l'ai découvert très tard. Alors, un sabotier qui a une vache, c'est pas tout. La vache, il faut quand même la nourrir, il faut l'emmener, il faut avoir une petite terre, il faut l'emmener au besoin sur les bords de route pour en brouter. Je l'ai découvert très tard. Je l'ai découvert dans l'archive paroissiale, parce qu'il y avait des archives en plus de municipales et départementales. Il y avait des archives paroissiales qui n'étaient plus dans cette paroisse, évidemment, qui étaient à Bellem. Hein. Ça m'intéressait. Le jour, vous allez me dire, mais c'est pas de l'histoire, ça, mais le jour où j'ai découvert que celui que je travaillais depuis 2 ans avait une vache, bah pour moi, ça, c'était un événement.
Vous êtes attaché à Louis-François
Pinagot? Oui, j'ai même dit à la fin, parce que c'est pas une plaisanterie uniquement, que s'il est... Admettons qu'il y ait une autre vie... Ça nous renvoie à une de vos questions précédentes, d'un autre jour. S'il y avait une autre vie, je rencontrerais, peut-être, Louis-François Pinagot. Mais qu'est-ce qu'il me dirait? Je crois qu'il me trouverait que mauvais. Quoi.
Oui, parce que les dernières phrases sont « Qu'il me pardonne cette évanescente résurrection. Qu'aurait-il pensé de ce livre que, de toute manière, il n'aurait pas pu lire ?»
Ben oui, parce qu'il était analphabète dans sa vie.
Et ce livre, il va à rebours de ce qu'auraient fait d'autres historiens qui aurait davantage inventé l'intimité de
Ah bah oui, qui aurait... Ah bah non, mais ça c'est du roman historique, ça. Ah bah non,
ou alors ce serait de l'histoire sociale à...
Ah non. Alors là, attention à ça. Il y a une... L'histoire sociale, elle repose en grande partie sur quelque chose de faux. C'est-à-dire que on a étudié une histoire des gens en groupe, en foule, mais très peu, on a très peu de personnes. Il y a quelques-uns qui ont laissé des mémoires, 4 ou 5, pas plus, des ouvriers du 19e. Il y en a un qui, vous êtes sur ces terres, ici, Père Lachaise, qui a laissé ses mémoires en 92, c'est Martin Nadeau, qui a une place à Paris, qui a une station de métro en partie, et dont un comité auquel j'ai adhéré demande sa panthéonisation. Parce qu'il n'y a pas un seul ouvrier, au sens où on entend un ouvrier du 19e siècle, il n'y a pas un seul ouvrier au Panthéon. Alors, on va se dire, c'est pas la mode. Hein, les ouvriers, bon, c'est pas la mode. On met des gens, vous voyez qui on met. Ça vaudrait la peine de mettre Martin Nadeau. Il y a eu une petite exposition à la mairie du 20e. Mais il n'a pas été qu'ouvrier. Il a été ouvrier de 15 ans à... de 1830 à 1849, disons, hein. C'est tout. Mais quand même, il a été ouvrier. Et il était un très bon ouvrier, très bon maçon plâtrier, etc. Et puis, c'est lui qui a fait voter toutes les grandes lois, pratiquement, sociales. Hein. Et tout le monde a en tête une phrase de son discours de la Chambre, « Quand le bâtiment va, tout va. Hein. » Alors, donc, c'est pas rien, Martin Nadeau. Mais aujourd'hui, je vois pas trop la presse, l'ensemble de la presse enthousiasme à l'idée de faire rentrer un ouvrier du 19e siècle au Panthéon. Alors, il a résisté à Napoléon III à un moment, parce qu'il est revenu dans les années 60. Mais il s'est battu quand même toute sa vie. Au sens propre, d'ailleurs, comme ouvrier, c'était un adepte de la savate, c'est-à-dire une espèce de boxe ouvrière de l'époque. Il était très fort. Hein. Et donc, il était petit, mais très fort. Bon, mais ça serait intéressant, encore une fois, à mon avis, il a résisté, il était arrêté le 2 décembre. Ça serait intéressant de mettre un ouvrier au Panthéon. Je sais pas. Ma formation, vous le savez bien, mais bon.
Vous êtes nombreux dans le comité à le soutenir.
Ah bah, d'abord Jean-Pierre Rioux qui a fait Maurice Aguillon. Les deux ont publié les mémoires hein, de Martin Nadeau, c'est Monsieur Caffi. Et à Soubrebost dans la Creuse, parce que ça serait une façon d'honorer la Creuse aussi. Et il y a sa maison natale qui vient d'être un petit musée. Si vous passez à Soubrebost, vous pouvez aller voir chez Martin. C'est qu'était Martin Nadeau parti à 15 ans comme maçon.
Et alors, je vais vous poser la même question sur l'histoire des ouvriers que sur l'histoire des années 30. Est-ce que cela signifie, Alain Corbin, qu'il n'y a pas d'histoire du mouvement des ouvriers au 19e qui trouve grâce à vos yeux?
Si. Vous n'êtes pas de dire le mouvement ouvrier.
Oui.
L'histoire du mouvement ouvrier, elle est faite, elle est bien faite, etc. Il y a aussi il y a même l'histoire orale, Gérard Noiriel interrogeant des gens de ces catégories. Mais là, si vous voulez, on a confondu un peu l'engagement général et l'ouvrier. Alors il y a le dictionnaire du mouvement ouvrier.
Le Métron.
Le 150 volumes, le Métron. Métron était à mon jury de cette thèse du troisième cycle, donc je n'en dirais pas. Il était très bien, Métron. Hein. Et c'est une très belle entreprise, mais militante quand même. C'est plutôt le militantisme. Je parle avec des gens comme Louis-François Pinago, le sabotier, c'est pas ça. C'est ça que je voudrais connaître, c'est cela que je voudrais connaître. Alors il y a quelques-uns. Il y a en Angleterre, il y a Fabrice Ben-Simon qui travaille sur ces Anglais, il y a Carla Blanche, le Belge, qui vient de publier un très bel ouvrage sur un fabricant de fusils de la banlieue de Liège, si j'ai bonne mémoire. Enfin bref, il y a quelques, mais pas assez. Voilà. Norbert Truc, hein, qui était aussi un ouvrier dont on a des carnets. Mais c'est, on a trop confondu histoire ouvrière avec l'histoire des masses de l'ensemble, ce qui ne permet pas de plonger dans l'individualité de l'ouvrier. C'est... Alors ça, on s'en tire par le roman, on vous fera lire l'Assommoir de Zola, etc. Mais ça, c'est autre chose.
Alain Corbin, ces dernières années, vous avez écrit des histoires transversales. Sur l'arbre, l'herbe, le silence. C'est-à-dire, c'est pas un moment donné, l'étude d'un motif à un moment donné, mais c'est toute l'histoire de ce motif.
Oui, c'est quelque chose. Alors, le silence, il y a longtemps que ça me tracassait, ça. Parce que je pense que, d'abord, dans ma formation, il y avait énormément de silence à l'église, à l'école, tout ce que vous voulez, au collège, etc. C'est pétri de silence. Hein. Alors, j'avais une connaissance du silence. Et d'autre part, il y a les moines, hein, les trappistes qui vivent en silence. Et mon père m'avait emmené, vu qu'il était si religieux, à une semaine sainte, demi-semaine sainte, hein, vendredi, samedi, dimanche, à Soligny-la-Trappe, qui est la grande trappe. Et j'avais vu ces gens en silence. Et ça m'avait frappé. Et quand j'ai lu le Vide rancé de Chateaubriand, où son confesseur lui dit « Allez à Soligny, justement, à l'endroit où j'avais été », pour faire un livre, il a écrit, c'est Vide rancé, et ça m'avait aussi frappé. Et quand un de mes collègues avait pris sa retraite, il fallait trouver un sujet d'article, je m'étais dit, tiens, voilà un sujet d'article. C'est-à-dire que le sujet est suivant. Est-ce qu'il y a une histoire du silence? C'est-à-dire que la difficulté pour Chateaubriand, qui était un romantique, qui était l'homme des tempêtes, qui était les cheveux, vous savez, redressés sur la tête, le sublime, etc., allez voir Rancé, qui était l'homme du 17e. C'est un silence, le silence de la trappe, 27e instruction de Rancé, n'a rien à voir avec ce que devait penser Chateaubriand du silence. Et ça se voit. Ça se voit dans ce Vide rancé. C'est-à-dire qu'il arrive à Soligny-la-Trappe, il voit l'étang, etc., et il lit les choses, il a du mal à comprendre. Il a du mal à comprendre, ce romantique a du mal à comprendre, c'est ce que, au fond, Roland Barthes, qui a publié, et qui a préfacé et annoté une vie de Rancé de Chateaubriand, laisse entendre. Hein, j'ai essayé d'aller uniquement sur cet aspect, incompréhensible silence de Soligny-la-Trappe pour Chateaubriand, et j'en ai fait un article donc pour ces mélanges. Et ayant été malade étant dans mon lit pendant une quinzaine de jours, et donc j'ai fait un essai d'histoire du silence, parce que c'est important le silence. C'est fou le nombre de gens. D'abord, c'était le succès des librairies le plus net pour moi en France.
Ah, plus que Pinago?
Je pense, oui. Et j'ai reçu ce matin, là, ça c'est la. C'est une des traductions, mais ça fascine aujourd'hui. Je ne savais pas, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui ça fascine le silence. On est dans un hiver où c'est lié quand même à la méditation. Hein. Et c'est fou le nombre de gens que j'ai rencontrés qui me disent, même à des photographes qui étaient venus pour ce livre, qui me disent, moi, à chaque fois le matin, je me lève et
Je médite
en silence pendant 6 ou 7 minutes. Ou alors c'est un nombre de respirations, ou alors etc. Bon, j'ai écrit, c'était encore... Oui, j'ai essayé d'expliquer le passage par Chateaubriand et par mon passé, mais c'est pas, je ne suis pas un grand gourou pour vous enseigner le silence.
Mais alors, ce sont des livres que vous n'écrivez pas à base d'archives.
Alors voilà, il y a un âge, d'une part, où j'ai été 40 ans dans les archives, ensuite à la bibliothèque, Maintenant, je me déplace difficilement, je fais des choses qui m'intéressent. L'herbe, évidemment, c'est lié au bocage. Hein. Et l'arbre, si vous lisez bien ce que j'ai écrit sur l'arbre, c'est pas la forêt, c'est surtout pas la forêt. C'est beaucoup plus ce qu'on appelle l'arbre champêtre. Vous savez que dans le bocage, il y a des arbres parfois dans les haies. D'ailleurs, il ne devrait pas y en avoir, mais il y en a qui ont poussé. Et puis, il y a un arbre au milieu, là, tout seul. C'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est ce chêne qui est là. Que vous promenez un bocal où il y a un chêne, hein. C'est pas la forêt, ça. C'est surtout ça. L'herbe, ça se comprend. La pluie, c'est, il y a un petit ouvrage sur la pluie, c'est un ouvrage collectif, hein. Je me suis un peu amusé, la pluie. Alors, les Italiens avaient repéré ça dans un ouvrage collectif, ils l'ont traduit tout seul. Alors, Flammarion s'est dit, on va faire la même chose. Donc, ils ont traduit. La pluie, ça a été quand même quelque chose de rapide.
Alain Corbin, vous l'avez dit, vous habitez à Paris, dans le 20e arrondissement, à côté du cimetière du Père Lachaise. Allez-vous toujours à la campagne?
Je voudrais. Mais j'y vais très peu pour des raisons de difficulté de locomotion, si vous voulez. Je marche pas. Alors que je marchais beaucoup quand j'avais 30-40 ans. Mais j'y vais, la maison de famille qui est dans l'Orne, sont mes enfants qui l'ont, qui s'en occupent. Peut-être, j'y suis allé il y a 2 ou 3 mois. Ça m'émeut toujours un peu.
Merci, Alain Corbin. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lainé avec Alain Corbin. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, prise de son Yann Fressy. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.